Nous devons tous manger, par besoin et par plaisir, et il s'agit d'aborder le thème de la nourriture vu par les grands écrivains de l'Antiquité à aujourd'hui. La radio en général n'a toutefois pas encore fait les progrès nécessaires à la diffusion des flux odorants par les ondes, comme le futuriste italien Tommaso Marinetti l'escomptait en 1931, et dont voici un extrait.
Il s'est produit dans la vie pratique des hommes suffisamment de modifications mécaniques et scientifique, pour qu'il soit possible de parvenir aussi à un perfectionnement culinaire, à une organisation de saveurs, d'odeurs et de valeurs différentes qui, jusqu'à hier, auraient paru absurdes, parce que différentes également étaient les conditions générales d'existence. Il faut donc, en variant continuellement les genres de nourriture et la façon de les accorder, tuer les vieilles habitudes, trop bien enracinées dans le palais, pour préparer l'humanité aux futurs aliments chimiques et peut-être à la possibilité, pas si éloignée, de réaliser par voie radiophonique une diffusion d'ondes nutritives. Ce premier chapitre se passe de commentaires. C'est toute une révolution. Jusqu'à présent, il y avait dans certains restaurants des odeurs. Que Dieu nous en garde! Désormais, l'on réorganisera les odeurs. Par exemple, l'odeur des assiettes lavées sera transformée en odeur de lavande. Ce qui ressortit du prodige, et qui a peut-être échappé à Marconi lui-même, c'est la possibilité de réaliser, par voie radiophonique, une diffusion d'ondes nutritives. Du reste, la chose n'est après tout pas si extraordinaire. De même que la radio peut diffuser des ondes asphyxiantes et soporifiques, conférences, jazz, récitals de poésie, etc., elle pourra aussi diffuser des extraits des meilleurs plats et des meilleurs repas. Quelle cocagne alors !
En attendant la mise au point de ce service gastronomique radiophonique, nous continuerons à sacrifier au rythme des trois repas quotidiens, dont l'origine se situerait au Moyen-Âge et constitue un véritable rituel. Nadia Stango.
Oui, on comprend à travers un texte, très paradoxalement, un texte de Samuel Beckett tiré de Watt, à quel point les rituels, la ritualisation des repas est tout aussi importante peut-être que le contenu du repas et de l'aspect alimentaire du repas.
Les repas de M. Knott ne posaient guère de problème. Le samedi soir, on préparait et faisait cuire une quantité suffisante de nourriture pour maintenir M. Knott pendant une semaine. Ce plat contenait des aliments tels que potages variés, poissons, œufs, gibier, volailles, viande, fromage, fruits, tous variés, sans oublier bien sûr pain et beurre. Et il contenait aussi les boissons les plus courantes, telles que eau minérale, absinthe, thé, café, lait, stout, bière, whisky, cognac et vin. Et il contenait aussi une variété de choses nécessaires à la santé, tels qu'insuline, calomel, iode, laudanum, mercure, charbon, fer, camomille et poudre vermifuge. Et bien sûr, sel et moutarde, poivre et sucre, et bien sûr une larme d'acide salicylique contre la fermentation. Toutes ces choses, et bien d'autres trop nombreuses à énumérer, on les mélangeait avec soin dans le célèbre pot, avant de les mettre à mijoter pendant 4 heures, jusqu'à ce qu'elles soient réduites à consistance de purée ou de bouillie, et que toutes les choses bonnes à manger, et toutes les choses bonnes à boire, et toutes les bonnes choses nécessaires à la santé soient confondues sans retour et transformées en une seule bonne chose, ni nourriture, ni boisson, ni médecine, mais une bonne chose, sui generis, dont la moindre cuillerée ouvrait et refermait l'appétit, excitait et apaisait la soif, compromettait et stimulait les fonctions vitales, et montait agréablement au cerveau. On servait ce plat à M. Knott froid, dans une écuelle, à midi tapant et à 7 heures précises du soir, d'un bout de l'année à l'autre.
Est-ce que c'est une prévisualisation de notre période influencée par le food où l'on mangerait n'importe quoi à n'importe quel moment ?
Je pense que dans ce texte, on comprend à quel point l'homme est presque déshumanisé parce qu'il ne mange plus qu'une fois par semaine et qu'il n'a plus un processus social et culturel dans l'acte de manger. Il est revenu à un état presque animal où il doit manger pour se maintenir, c'est les termes que Beckett utilise, mais ne mangeant plus en compagnie et ne mangeant plus de manière régulière, il perd presque une forme de dignité humaine que l'on acquiert à travers le fait de manger d'une certaine façon et non pas seulement de manger pour exister.
Alors, ce rituel des repas quotidiens est donc une forme d'organisation sociale.
C'est une forme d'organisation sociale et c'est aussi, disons, un ancrage culturel. Au fond, quand on mange, on institue quelque chose, c'est un acte culturel. Et ça me renvoie en fait à une affirmation d'un grand scientifique français, spécialiste de la nutrition, qui s'appelle Trémolière. Dans un grand texte, il dit que l'homme a tout autant besoin de se nourrir de symboles. Et c'est en fait les conclusions auxquelles il arrive en étudiant la nourriture. Et on comprend ceci, je dirais, à l'envers, en lisant le texte de Beckett, où en fait l'homme mange pour manger comme presque un animal, hein, on peut dire. En perdant le rituel, il perd une certaine forme humaine.
En étant privé de rituel, l'individu perd forme humaine, comme vous l'avez évoqué avec le texte de Beckett. Mais la nourriture peut être aussi un outil spirituel.
Oui, tout à fait. On le voit à travers des textes qui sont à l'entrée de l'exposition. Un extrait du Festin de Babette de Karen Blixen, ou bien un texte de Ramu tiré d'une nouvelle, Le pain, le vin, le sel, sont deux réalités très différentes mais qui peuvent se rejoindre. La nourriture qui, à travers laquelle on craint le péché, on craint de se nourrir contre la santé de son âme, mais aussi la nourriture qui devient un outil d'élévation, un outil spirituel, comme dans le texte de Ramu, où le vin, le pain sont des aliments qui, presque par leur substance, leur consistance, vont permettre une forme d'élévation, vont devenir une nourriture un peu mystique.
Nourriture de partout, nourriture de toujours, et proche malgré tout du sol, n'est-ce pas? Quand je vais à vous et vous respire, avec lui que je communique, mystiquement et grâce à vous.
Dans cet extrait de Charles-Ferdinand Ramu, le pain, le vin, le sel, il s'agit de nourriture spirituelle. Mais nous mangeons pour vivre, par amour, par vengeance, pour célébrer un culte. Les rituels sont donc innombrables.
C'est justement ce qu'apporte la force, la richesse de cette exposition. C'est qu'en se promenant à travers ces différentes salles, on comprend à quel point la nourriture est au centre de beaucoup de nos actes, justement, qu'ils soient spirituels, sociaux, culturels. Et même, il y a un aspect très érotique dans la nourriture.
Comme par exemple dans le texte de Calvino, où il passe, où il veut véritablement dévorer sa partenaire.
Oui, c'est tout un jeu érotique qui se dessine à table parce que sa compagne s'appelle Olivia et le personnage de Calvino est en train de manger de la viande et il déguste à la fois le nom de la viande du repas, mais à travers cette sensation dans la bouche, il se rend compte qu'il a envie de déguster sa femme et que ce serait en fait un acte d'un grand érotisme de goûter la viande de la chair de sa compagne.
Écoutons cet extrait de « Sous le soleil jaguar » de Italo Calvino.
« Tu ne manges pas ?»
me demanda Olivia, qui semblait uniquement concentrée sur le fait de savourer son plat et se révéler au contraire très attentive, comme d'habitude, alors que moi j'étais resté absorbé en la regardant. C'est que j'étais en train d'imaginer. C'était la sensation forte de ses dents dans ma chair. Et je sentais sa langue me soulever contre la voûte du palais, m'envelopper de salive, puis me pousser sous la pointe de ses canines. J'étais assis là devant elle, mais il me semblait en même temps qu'une partie de moi, ou tout moi-même, était contenue dans sa bouche, lacérée fibre après fibre. Et la situation n'était pas complètement passive, car, tandis que j'étais mangé par elle, je me sentais aussi en train d'agir sur elle. Je transmettais des sensations qui se propageaient de ses papilles à tout son corps. C'était moi, me semblait-il, qui provoquait chacune de ses vibrations. C'était un rapport réciproque et complet qui nous impliquait et nous emportait. Entre-temps, j'avais compris. Mon erreur avec Olivia était de me considérer mangé par elle, alors que j'aurais dû être, et j'étais même, j'avais toujours été celui qui l'a mangé. La chair humaine au goût le plus attrayant est celle de qui mange de la chair humaine. Ce n'était qu'en me nourrissant avec voracité d'Olivia que je serais parvenu à ne plus être insipide pour son palais. C'est fort de ce propos que je m'assis ce soir-là avec elle au dîner.
Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es étrange ce soir.
Dit Olivia qui rien n'échappait jamais. Le plat qu'on nous avait servi s'appelait « gorditas pellizcadas con manteca », littéralement « potelé pincé au beurre ». Je me concentrais pour dévorer en chacune de ces boulettes de viande toute la fragrance d'Olivia à travers une mastication voluptueuse, une extraction vampiresque des sucs vitaux. Mais je m'apercevais qu'un quatrième élément, qui prenait un rôle majeur, s'insérait dans ce qui aurait dû être un rapport à trois, moi, boulette, Olivia. C'était le nom même de ces boulettes. C'était ce nom, gorditas pellizcadas con manteca, que je savourais surtout et assimilais et possédais. Si bien que la magie du nom continua d'agir sur moi-même après le repas, quand, à la tombée de la nuit, nous nous retirâmes ensemble dans notre chambre d'hôtel. Et pour la première fois au cours de notre voyage au Mexique, le charme dont nous avions été les victimes fut rompu. L'inspiration qui avait favorisé les meilleurs moments de notre cohabitation revint nous visiter.
Alors selon Calvino, le cannibalisme et l'érotisme sont liés ?
Il y a, je dirais, une espèce de fantasme érotique qui serait possession de l'autre, devient, se mêle comme ça à une espèce d'idéal presque de cannibalisme en fait.
Mais le cannibalisme qui est un acte barbare chez nous est vu différemment dans d'autres cultures, c'est simplement une question de convention sociale. Martin Scherer.
C'est le tabou le plus important et le plus général d'ailleurs aussi dans le monde, celui du cannibalisme. On ne mange pas d'autres hommes, bien qu'il y ait, mais toujours très ritualisé, de telles pratiques, par exemple pour manger son ennemi, pour s'incorporer les qualités de cet ennemi, ou vraiment en cas de catastrophe, de pénurie, de famine extrême.
Ce qui est intéressant autour du cannibalisme, ce sont les textes des contes, les contes de notre enfance. C'est là aussi qu'on comprend que les contes ne sont pas seulement à lire, ce sont des textes où la peur d'être mangé, la crainte d'être dévoré est centrale, comme dans le cas de Hansel et Gretel qui, en pensant faire un festin, se retrouvent eux-mêmes dans la peau des dévorés, enfin, potentiellement.
Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants ?
Hélas, madame, que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier.
Je sens la chair fraîche, et il y a ici quelque chose de louche.
Les habitudes dépendent donc des conventions sociales et également des époques.
Oui, c'est aussi le ciment en fait d'une identité patriotique, enfin d'une construction culturelle. C'est ce que Barthes, Roland Barthes explore dans son texte Mythologie au sujet du beefsteak et des frites qu'il forme en repas national. Un Français est un Français parce qu'il mange du beefsteak accompagné de frites.
Le beefsteak participe à la même mythologie sanguine que le vin. C'est le cœur de la viande. C'est la viande à l'état pur. Et quiconque en prend s'assimile la force taurine. De toute évidence, le prestige du beefsteak tient à sa quasi-crudité. Le sang y est visible, naturel, dense, compact et sécable à la fois. On imagine bien l'ambroisie antique sous cette espèce de matière lourde qui diminue sous la dent de façon à bien faire sentir dans le même temps sa force d'origine et sa plasticité à s'épancher dans le sang même de l'homme. Le sanguin est la raison d'être du beefsteak. Les degrés de sa cuisson sont exprimés non pas en unité calorique, mais en image de sang. Le beefsteak est saignant, rappelant ainsi le flot artériel de l'animal égorgé, ou bleu, et c'est le sang lourd, le sang pléthorique des veines qui est ici suggéré par le violine, état superlatif du rouge. La cuisson, même modérée, ne peut s'exprimer franchement. À cet état contre nature, il faut un euphémisme. On dit que le beefsteak est à point. Ce qui est à vrai dire donné plus comme une limite que comme une perfection. Manger le beefsteak saignant représente donc à la fois une nature et une morale. Tous les tempéraments sont censés y trouver leur compte, les sanguins par identité, les nerveux et les lymphatiques par complément. Et de même que le vin devient pour bon nombre d'intellectuels une substance médiumnique qui conduit vers la force originelle de la nature, de même, le beefsteak est pour eux un aliment de rachat, grâce auquel ils prosaïsent leur cérébralité et conjurent par le sang et la pulpe molle la sécheresse stérile dont sans cesse on les accuse. La vogue du steak tartare, par exemple, est une opération d'exorcisme contre l'association romantique de la sensibilité romantique et la maladivité. Il y a dans cette préparation tous les états germinants de la matière, la purée sanguine et le glaireux de l'œuf, tout un concert de substances molles et vives, une sorte de compendium significatif des images de la préparturition.
Ce texte est extrait de Mythologie de Roland Barthes, mais celui de Raymond Queneau dans Asie dans le métro est tout aussi évocateur du chauvinisme alimentaire.
Oui, il y a aussi un sourire ironique de la part de l'auteur parce que il parle de nourriture qui est pas du tout alléchante, mais qui tout de même est devenue sacrée, hein, sacralise cette identité française, et donc c'est presque blasphématoire de s'en prendre à la choucroute, de la déprécier. Les étrangers s'étranglaient d'enthousiasme devant tant de couleurs locales, cependant que des garçons vêtus d'un pagne commençaient à servir, accompagnés de demi de bière enrhumée, une choucroute poicre parsemée de saucisses paneuses, de lard chancy, de jambon tanné et de patates germées, apportant ainsi à l'appréciation inconsidérée et de palais bien disposés la fine efflorescence de la cuisine française.
Le chauvinisme gastronomique est très répandu, et cela semble malvenu de critiquer un plat national, non ?
On se rend compte aussi à quel point la frontière nationale peut devenir la frontière du goût, ou même la frontière de la toxicité, tant un plat qui est considéré comme un totem, un emblème national, aux yeux d'un étranger peut sembler toxique, peut sembler de l'ordre de la menace. C'est le cas d'un texte de Tabouki qui se rend au Portugal et qui, à la vue du sarabulot, pense qu'il va s'intoxiquer et donc a peur de mourir en mangeant un plat qui n'est pas le plat de sa propre culture. Ou comme Théophile Gautier qui, en allant en Espagne, ne comprend pas qu'on puisse manger comme plat national une simple soupe de tomates. Il y a une crainte d'une menace faite à l'intégrité de la personne, ou une crainte de toxicité. Ces deux craintifs finissent les deux par beaucoup apprécier les deux plats qu'ils goûtent.
La nourriture peut-elle être également vue sous un angle politique ?
Alors, il peut y avoir dans certains cas l'envie de détruire cette identité pour en créer une autre, comme Marinetti, donc le chef de file du groupe futuriste en Italie au début du XXe siècle, qui justement, comme l'extrait que vous avez entendu, propose en fait comme nourriture idéale du nouvel homme de cette ère mécanique du XXe siècle, la radiophonie. Dans ce but, ce qu'il va faire, c'est vouloir détruire cette identité nationale construite dans les pâtes. Et pour lui, les pâtes sont un aliment qui détruisent les capacités, les compétences des Italiens.
Quel est le rapport entre le goût gastronomique et le goût artistique ? C'est-à-dire quand le problème est de transformer un savoir-faire qui procure de la volupté en un art qui relève du goût artistique.
Alors, c'est tout le mystère du fameux épisode de la Madeleine, du texte de Proust. La volupté que le personnage de Proust ressent lorsqu'il goûte cette Madeleine et cette espèce de ravissement en dehors des frontières temporelles va se traduire dans texte artistique qui va ensuite construire et qui va pérenniser cette volupté. Donc il y a une continuation entre cette volupté sensible, gustative, et ensuite la volupté du geste de l'écrivain qui va vouloir éterniser cette première sensation. En fait, il s'ensuit toute une série de questions auxquelles il ne pourra pas répondre, mais qui en fait auront comme réponse naturelle toute son œuvre, c'est-à-dire le texte artistique qui va suivre. Je peux vous lire quelques lignes qui suivent l'épisode de la Madeleine. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. D'où avait pu me venir cette puissante joie? D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender?
La digestion fait partie de l'alimentation. Ce que le corps rejette est caché, et pourtant des descriptions détaillées se retrouvent dans la littérature. Par exemple, comment Proust imagine son pot de chambre transformé en vase de parfum.
Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s'étaient amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore, en ces ébauches d'arc-en-ciel, en cette extinction de soir bleu, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elles jouaient dans leur farce poétique et grossière, comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase de parfum.
Signalons à nos auditeurs qu'il s'agit d'un extrait de Du côté de chez Swann. Est-ce que c'est une tendance particulière à une époque, ou a-t-on toujours accordé une grande importance à ses humeurs ?
En fait, tout le processus de la digestion est souvent rapproché dans ces textes au processus de l'imagination. C'est-à-dire que les méandres des intestins et le mystère de la digestion rappellent les potentialités infinies du cerveau. Et il y a une espèce d'écho entre le ventre et le cerveau. Et c'est le cas dans un texte de Maupassant où la digestion semble tellement centrale qu'une mauvaise digestion peut conduire au suicide sans que l'on puisse comprendre pourquoi. Quant à Proust, ce qu'on le remarque dans ce texte où Proust décrit son pot de chambre, c'est justement tout sauf la description du contenu de son pot de chambre qui ne serait pas très alléchante, mais c'est tout le travail de transfiguration de la réalité et du pouvoir de l'imagination. C'est-à-dire que Proust, en décrivant son pot de chambre, décrit ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire le travail de son imagination, et il en arrive à parler des féeries de Shakespeare pour parler des nuances, enfin il parle des nuances célestes, des féeries de Shakespeare, en évoquant ce qu'il sent, des réalités beaucoup plus prosaïques.
On trouve les mêmes préoccupations chez James Joyce.
De nouveau, il y a une espèce d'écho entre la digestion et le travail cérébral, parce qu'au moment où le protagoniste est sur le trône, il lit un journal et il commente toutes les publications du moment. C'est une réalité qui est toute simple, mais qui est très très mystérieuse, c'est-à-dire qu'on devient ce qu'on mange, mais en mangeant, on souhaite aussi devenir quelqu'un. Donc il y a tout un idéal que l'on projette dans l'aliment que l'on va ingérer. Et pour en revenir à Barthes, dans l'encensement du steak, du beefsteak de Barthes, il y a aussi cet idéal de s'assimiler, et ça c'est les termes de Barthes, de s'assimiler la force taurine du beefsteak. Mais il y a aussi une espèce d'idéal parce qu'au fond, Barthes compare le rouge vif de la viande crue à l'ambroisie divine, donc à la nourriture des dieux païen. Et alors, à l'envers, par contre, pourquoi Marinetti ne veut plus que les Italiens s'abreuvent de pâtes, c'est qu'il y voit en fait une contradiction à l'idéal de l'Italien, à l'idéal de l'homme que lui se fait et qu'il veut créer. Donc, de l'exaltation ou du rejet, il y a au fond ce mystère du devenir de l'être humain Est-ce qu'on va devenir ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on devient, au fond, en mangeant un aliment?
Quels écrivains vous paraissent offrir des avis intéressants en cette période de malbouffe?
Comme le fait Proust, c'est-à-dire que... Proust transfigure justement cette réalité sensible en une nourriture spirituelle, en une nourriture imaginaire. Et nous-mêmes, en lisant, nous prenons conscience de ce que nous faisons réellement en mangeant. C'est-à-dire quelle identité nous construisons en mangeant et que devenons-nous en mangeant, pourquoi mangeons-nous ou pour qui mangeons-nous. C'est d'ailleurs en fait un texte très ancien qui peut être très très proche de nous. C'est un texte, c'est tiré des Métamorphoses d'Ovide où un dieu supplie les êtres humains de s'abstenir de consommer de la viande. Pourquoi préférer alors les céréales, les fruits et les légumes à la viande parce qu'ils n'impliquent pas le meurtre. Cela rejoint une préoccupation très actuelle au fond. Pourquoi manger des fruits et des légumes? Ça nous fait prendre conscience de du fait que nous sommes inscrits dans une logique de diététique, de santé, alors que pour Ovide, il fallait manger des légumes et des céréales parce que ceux-ci n'étaient pas souillés par le sang et que ça nous permettait de préserver notre âme.
Abstenez-vous, mortels, de souiller vos corps de mets abominables. Vous avez les céréales, vous avez les fruits dont le poids fait courber les branches, et sur les vignes les raisins gonflés de jus. Vous avez des plantes savoureuses et d'autres que la flamme peut rendre douces et tendres. Ni le lait ni le miel qu'a parfumé la fleur du thym ne vous sont interdits. La terre, prodigue de ses trésors, vous fournit des aliments délicieux. Elle vous offre des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang. Ce sont les bêtes qui assouvissent leur faim avec de la chair, et encore pas toutes, car les chevaux, les moutons et les bœufs se nourrissent d'herbe. Il n'y a que les animaux d'une nature cruelle et féroce, les tigres d'Arménie, les lions toujours en fureur, les loups, les ours qui aiment une nourriture ensanglantée. Hélas! Quel crime, n'est-ce pas, d'engloutir des entrailles dans ses entrailles, d'engraisser son corps à vide avec un corps dont on s'est gorgé, et d'entretenir en soi la vie par la mort d'un autre être vivant.
En conclusion, Nadia Stango, ces textes littéraires nous rappellent que les mots ont aussi un goût.
Le mot est aussi une affaire de bouche avant tout, c'est-à-dire que le mot est comme un aliment, c'est quelque chose que l'on déguste, que l'on fait rouler dans sa bouche, et toute la saveur du mot est l'aliment premier de l'écrivain, qui va ensuite le coucher sur le papier. Donc c'est aussi l'occasion de redécouvrir l'oralité du mot et du fait artistique littéraire.